VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Politique en RDC, les 28 pays de l'Union européenne demanderont officiellement lundi prochain à la République démocratique du Congo d'organiser des élections en 2017, menaçant de sanctions individuelles ceux qui s'opposeraient à ce processus, a appris l'AFP aujourd'hui auprès de sources diplomatiques à Bruxelles. À l'occasion d'une réunion à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères des 28 pays de l'Union vont demander à Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'UE, de commencer à identifier les différentes personnalités qui seraient opposées à la tenue d'élections en vue de possibles sanctions, a expliqué un diplomate européen. Nous avons besoin d'éléments, de preuves suffisamment solides pour les sanctionner, a-t-il ajouté. Le diplomate n'a pas cité de cible, mais évoqué des gens autour de Joseph Kabila, le président de la RDC, selon l'AFP. L'Union européenne entend condamner les violences meurtrières survenues en RDC, en particulier à Kinshasa, les 19 et 20 septembre. Deux jours, la donne a changé dans ce pays d'Afrique centrale, a souligné un autre diplomate européen. Ces violences, qui ont fait au moins 50 morts selon l'ONU, sont les pires qu'ait connues Kinshasa depuis janvier 2015. Et toujours concernant la RDC, alors qu'on annonce un accord imminent entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition, une délégation de la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, vient d'achever une mission de 3 jours à Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Reçus en premier, les délégués du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ont rappelé au ministre des Affaires étrangères de la SADC les préalables de la plateforme qui dirige l'opposant Étienne Tshisekedi pour sa participation à un dialogue véritablement inclusif. La délégation du Rassemblement a été conduite par François Mamba.
L'opinion se rappelle que lorsque nous avons arrêté nos positions, nous avons indiqué que nous voulions un dialogue véritable qui mettrait en scène la logique qui se développe actuellement à l'Union africaine avec nous autres, de manière à pouvoir arriver à un entendement commun qui permette donc de respecter la constitution dans notre pays et d'aller dans l'apaisement vers donc des élections que tout le monde attend.
De son côté, l'opposition qui participe aux discussions de la Cité de l'Union africaine a invité tous ceux qui hésitent encore à rejoindre la table des négociations. Cette frange de l'opposition estime que les résolutions qui doivent sortir du dialogue seront pour le bien de tous. Vital Kamerhe est co-modérateur du dialogue.
Nous tous, nous voulons dialoguer. Nous tous, nous voulons donner au peuple congolais l'accord qui puisse permettre d'organiser les élections et la première alternance démocratique dans notre pays. La différence, c'est que nous nous disons, vous pouvez venir avec nous. Je voudrais aussi qu'ils disent, nous pouvons aller ensemble. Et ensemble, dans l'amour, dans la tolérance mutuelle, nous serons très forts. Nous allons discuter avec nos frères de la majorité. C'est l'adversité, ce n'est pas l'animosité.
La majorité présidentielle, qui a aussi échangé avec la mission de la SADC, a précisé que l'accord qui doit sortir du dialogue prévoit une large ouverture de façon à permettre à tous les acteurs politiques congolais à s'inscrire dans le chemin du dialogue. Obem Minako est secrétaire général de la majorité présidentielle.
Nous avons d'abord rassuré la délégation de la SADC, cette communauté qui a toujours soutenu la République démocratique du Congo en des moments difficiles, en nous respectant. Nous les avons rassurés du fait que le dialogue va prendre fin cette semaine parce que nous, de la majorité, nous avons fait des concessions majeures afin que le dialogue puisse se poursuivre et atterrir.
La mission de la SADC a eu aussi des échanges avec une délégation de la société civile. Les forces vives ont souligné notamment la nécessité d'un dialogue véritablement inclusif pour sortir la RDC de la crise politique actuelle. Au terme des consultations, les ministres de la SADC se sont dit confiants quant à l'aboutissement heureux du dialogue dont la signature de l'accord final pourrait intervenir ce week-end. Georges Chicoti est ministre angolais des Affaires étrangères.
Nous avons entendu l'essentiel de la classe politique congolaise. Nous avons écouté le gouvernement. Nous avons écouté les médiateurs, y compris les ambassadeurs de la SADC qui sont à l'RDC. Et sur cette base, nous avons aussi entendu et compris que le dialogue qui s'est déjà déroulé peut porter des fruits s'il arrive à sa conclusion.
Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Déclaration très controversée du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, aujourd'hui. Le leader nigérien a répondu ce vendredi aux critiques de son épouse sur son gouvernement en estimant que sa place était à la cuisine. Dans un entretien accordé à la BBC, Aïcha Buhari avait menacé de ne pas soutenir la réélection de son mari en 2019. Salwa Jafari.
I don't know which party my wife belongs to, but she belongs to my kitchen.
Je ne sais pas à quelle partie ma femme appartient, mais sa place est dans ma cuisine. Mon salon est dans l'autre chambre. Ce n'est pas facile de se débarrasser de l'opposition ou des gens qui ne vous ont pas suivi tout le long de votre campagne électorale. Je souhaite que ma femme se souvienne que je suis dans le domaine depuis 12 ans.
Une réponse que beaucoup considèrent choquante, d'autant plus qu'elle a été prononcée en présence de la chancelière allemande Angela Merkel. Dans un entretien à la BBC, Madame Buhari a laissé entendre que de hauts responsables nommés par son mari n'avaient pas de mission, de vision de ce qu'il faut faire pour le Nigeria. La première dame a ajouté que le président ne connaît que 5 personnes parmi les 50 qu'il a nommées dans le gouvernement. Si ça continue comme ça, je ne ferai pas partie d'un mouvement pour sa réélection, a-t-elle menacé. Muhammadu Buhari, un ancien putschiste, a été élu en mars 2015 à la tête du Nigeria après une campagne électorale axée sur la lutte contre la corruption endémique dans le pays. Le président a longtemps été critiqué pour sa politique économique, le pays ayant plongé dans la récession fin août, après 2 trimestres consécutifs de croissance négative.
L'Assemblée du Burkina Faso a adopté à l'unanimité un projet de loi visant à reprendre plus de 105 000 parcelles de terrain illégalement attribuées entre 1995 et 2015 à des dignitaires du régime du président déchu Blaise Compaoré. Des détails avec Nani Talani.
La loi sur le retrait de ces parcelles a été adoptée hier par les 108 députés présents sur 127 lors d'une plénière à huis clos. Elle fait suite à une enquête parlementaire sur le foncier urbain réalisé dans 15 des 360 communes que compte le pays. Parmi les 105 000 parcelles illégalement occupées figurent plus de 88 000 parcelles illégalement attribuées à 3 sociétés immobilières appartenant à Alizeta Ouédraogo, la belle-mère de François Compaoré, frère cadet du président déchu Blaise Compaoré, a expliqué le président de la commission d'enquête Bourema Barry. On y compte également 248 parcelles attribuées à Ouaga 2000, quartier UP de la capitale, sur instruction verbale du président Blaise Compaoré. Il y a aussi 113 parcelles octroyées au président Compaoré dans la commune de Zignaré, sa ville natale, et 22 parcelles attribuées à son frère François Compaoré dans la même localité. La commission a en outre recommandé le retrait des 14 parcelles d'habitation et de la réserve administrative octroyées à la fondation Souka, appartenant à l'ex-première dame du Faso, Chantal Compaoré, ainsi que le retrait d'une vingtaine de réserves que se sont partagées des maires de communes. Toutes ces parcelles concernées seront réintégrées dans le domaine public.
En Côte d'Ivoire, le principal parti d'opposition ivoirien et ses alliés ont préconisé aujourd'hui le boycott du référendum du 30 octobre sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Et c'est lors d'une conférence de presse à Abidjan. Nous appelons tous nos militants, nos compatriotes à ne pas se sentir concernés par ce qui doit se passer le 30 octobre, a déclaré Pascal Afine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, au nom de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFDCI. Le FPI tendance Abdourahmane Sangaré, l'aile dure du parti, qui est en rupture avec la présidence du FPI, avait déjà appelé au boycottage. Il faut que les Ivoiriens réservent leur vote pour les élections législatives à venir. Nous les appelons à se mobiliser massivement pour porter au Parlement la majorité des députés, de manière à ce que le FPI et l'AFDCI aient les moyens juridiques et politiques pour abroger ce qui va se passer le 30 octobre, a ajouté M. Afi Nguessan. Au Sénégal, Aliou Sall, frère du président sénégalais Macky Sall, annonce sa démission de son poste d'administrateur d'une société pétrolière en contrat avec l'État sénégalais pour exploiter des gisements de gaz. C'est après des critiques de l'opposition. Pour mettre à l'aise le président de la République, j'ai démissionné de mon poste d'administrateur de Timis Corporation Sénégal, souligne dans sa page Facebook. Le groupe Timis est associé à la compagnie américaine Kosmos Energy pour l'exploitation des réserves de gaz d'un gisement à cheval sur le Sénégal et la Mauritanie. La coalition sénégalaise d'opposition critique depuis des mois l'implication du frère du chef de l'État dans le domaine des hydrocarbures au Sénégal. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.